Oui, écoutez ça. L'aide du père Raymond Rodriguez du couvent de Bétaram, 10 septembre 1840. J'ai fait mes études bibliques avec des professeurs éminents, mais de Biel, Bugy, l'école dominicaine Jérusalem, nous étions dans la Terre Sainte même, tout un groupe de jeunes gens ouverts, vibrants au moindre choc. Eh bien, ce qui m'est resté à la fin des études, c'est un sentiment jamais avoué d'insatisfaction. La raison en est simple. Mettons de côté le Nouveau Testament, quelques livres de l'Ancien pour lesquels la méthode critique est la seule raisonnable. Mais c'est qu'il reste un bon nombre de livres saints dont la raison d'être, la portée, parfois même le sérieux, nous fondait entre les doigts. Idylle champêtre, nouvelle amusante, tradition populaire, historiette à but moral genre Rubaïa, etc., etc. On était tenté à la longue de ranger les livres saints en deux catégories, ceux qui ont encore un sens et ceux qui en ont eu, ceux qui nous concernent toujours et les autres dont le rôle est fini. Vous pourriez classer parmi ces derniers une bonne partie du Pentateuch, le Lévitique, les nombres, pas mal de pages des juges, des rois, etc., etc. Objet vénérable de musée pieux, vieux papier de famille qu'on garde par piété filiale. Mais même parmi ceux qui sont encore en vigueur aujourd'hui, il y aurait une petite tribu de livres moins importants que les autres, récits de différents genres littéraires, Ruth, Judith, Tobie, Esther, Cantique, dont le sens se réduirait à la petite leçon morale qu'ils impliquent à longueur de page. Voilà à peu près ce qu'un étudiant modéré pouvait penser. Je suis modéré car il y a des positions dont on se demande comment elles s'arrangent avec l'inspiration. Pour ce qui est de la méthode des pères, bien que très intéressante, elle n'est pas du domaine scientifique. Telle est d'ailleurs en elle-même bien hasardeuse, si subjective. Elle est d'ailleurs en elle-même bien hasardeuse, si subjective, soumise au tempérament, à l'éducation, à l'inspiration du lecteur. Elle est littéraliste avec ça, qu'elle n'est pas soumise à l'inspiration aussi et au tempérament. Et ensuite, la valeur des résultats est, me semble-t-il, invérifiable. Comment savoir la relation réelle existant entre le texte et l'application trouvée? Ce que j'ai trouvé est très intéressant, mais si ce n'était qu'intéressant, c'est un champ ouvert à la fantaisie. Je sais bien, il y a les traditions patristiques, mais etc. Et voilà où en est l'intelligentsia catholique.
Mais il en souffre, celui-là.
Alors je lui ai écrit, n'est-ce pas? Alors il me disait pour justifier, mais vous savez, ce sont de si braves gens. Ah, c'est une nouvelle lettre du clerc Rodriguez. L'Église nous met les psaumes sur les lèvres. Ah, écoutez ça. Or, certains d'entre eux, entendus d'après la méthode critique, sur les milieux, races, époques, etc., ne sont que des articles, entre guillemets, juifs, archi-juifs, pleins de chamaillerie, de chicane, de férocité, d'une mesquinerie à vous retourner le cœur, et puis en leur juif à un braiement d'âme. Expression typique, comme on dit, un jet de pierre employé en Palestine. Leur réponse, lettre véhémente, etc.
Votre réponse.
Vous avez gardé la copie.
Je ne garde jamais copie, mais je considère que ce n'est pas délicat, parce que les gens ont ça, c'est leur propriété, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas avoir l'air de faire de la littérature, puis ça me gênerait moi-même, n'est-ce pas? J'aurais un retour d'écrivain sur moi-même, je songerais à la publication, tandis que, en voyant ma lettre et n'y pensant plus, je me livre complètement sans aucun retour.
C'est tout de même évidemment très dommage, parce qu'on en retrouvera de vos lettres, des quantités, mais il y en aura beaucoup de perdues, celles que vous avez écrites à Gilles, par exemple.
Je considère que c'est très grave d'écrire une lettre et j'écris à quelqu'un, il faut que je me donne tout entier, n'est-ce pas? Si je garde quelque chose pour moi, si je garde une idée de publication, c'est pas généreux.
Non, bien sûr.